Excellent. Alors, comme Pasteur Christian l'a dit, c'était la journée internationale des droits de la femme. Alors, on tient à souligner, parce que dans nos sociétés contemporaines, oui, les femmes se sont peut-être trop libérées, mais dans d'autres sociétés, les femmes... Oui, ben oui, c'est ça, exactement. Ok, je me demandais pourquoi vous riez. Mais oui, mais dans d'autres sociétés, elles sont encore sous de mauvaise domination, si on peut le dire ainsi. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à ouvrir avec moi dans notre texte d'aujourd'hui, 1 Pierre 4, versets 1 à 6, et de vous lever pour cette lecture de la parole de Dieu. Alors, je lis dans la Bible de Louis II, 1910. Alors, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. Amen. On peut s'asseoir. Alors, je ne l'ai pas dit encore, mais je tiens à saluer Joseph qui est parmi nous, Stéphane et sa maman. Alors, bienvenue parmi nous. Alors, mon texte d'aujourd'hui sera divisé en trois sections, versets 1 et 2, versets 3 et 4, versets 5 et 6. Alors, pour la première section, je l'ai intitulé « S'armer de la pensée du Christ pour vivre dans sa volonté ». La deuxième section, rompre avec l'ancienne vie et supporter l'étonnement du monde. Troisième et dernière section, tenir ferme, car Dieu jugera et l'Évangile donne la vie même après la mort. Alors, avant de plonger dans notre texte d'aujourd'hui, il faut, je vais courtement rappeler certains points majeurs du précédent chapitre que notre texte d'aujourd'hui, afin que notre texte d'aujourd'hui plutôt fasse du sens. Alors, sans surprise, on n'est pas au début de la lettre en ce moment, on est déjà rendu au quatrième chapitre. Et c'est intéressant de s'attarder au chapitre précédent. Alors, dans 1 Pierre 3, verset 14, Pierre dit « N'ayez d'eux aucune crainte ». Alors, il n'est pas naïf, il ne dit pas « Personne ne vous fera jamais de mal », mais il leur dit plutôt de ne pas leur attribuer un pouvoir qu'ils n'ont pas vraiment. Car oui, les hommes peuvent blesser, les hommes peuvent calomnier, les hommes peuvent humilier, mais Pierre veut nous faire comprendre ici que leur pouvoir, ben, ça s'arrête là, il ne va pas plus loin. Ils peuvent atteindre notre peau, mais pas notre âme. Ils peuvent salir notre réputation, mais pas notre héritage qui est éternel. Alors, ils peuvent nous faire même passer pour des perdants aux yeux du monde, mais jamais changer le verdict final que Dieu a mis sur notre vie. Ils peuvent troubler nos émotions, mais pas renverser la grâce de Dieu envers nous. C'est la portée que le chapitre 3 voulait nous enseigner. Alors, la souffrance existe, mais ce n'est pas la finalité. Alors, Pierre nous a donné un remède concret, au chapitre 3 toujours, « Sanctifiez Christ comme Seigneur dans vos cœurs ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On s'était déjà attardé là-dessus, pour ceux qui se souviennent, durant ma dernière prédication. Alors, le passage qui est pris ici, c'est un passage d'Ésaïe, chapitre 8, versets 12 et 13. Alors, Judas était menacé, encerclé par des armées puissantes. Le peuple était en panique. Les cœurs se secouent comme les arbres de la forêt quand le vent souffle. Ésaïe 7 va le dire. Alors, au milieu de cette crise-là, Dieu dit au prophète Ésaïe, et c'est là le passage que Pierre cite directement dans 1 Pierre 3, versets 14 et 15, « Ne craignez pas ce que le peuple craint, mais sanctifiez l'Éternel des armées. C'est lui que vous devez craindre, lui seul, et il sera votre sanctuaire. » Alors, le peuple, à l'époque, l'armée ennemie, dis-je bien, et tremblait. Dieu leur dit « Sanctifie-moi, traite-moi comme le seul qui compte véritablement. Ne donne pas à tes ennemis la place que je dois occuper dans ton cœur. » Alors, ce n'était pas non plus un appel à nier la réalité du danger qui était devant eux, derrière les murailles. Ce n'était pas un appel non plus à minimiser la souffrance, mais c'était un appel à déplacer la crainte qu'ils avaient. Le peuple voyait l'armée ennemie comme étant le centre de leur problème. Ils avaient oublié, justement, la réalité du Dieu de l'Alliance qui délivre son peuple. Hein, c'est lui qui le délivrait de tous ses ennemis, de celui qui seul opère des miracles et qui les délivre de tous ses ennemis. Dieu dit « Remets-moi au centre, c'est moi qui suis déterminant, c'est moi que vous devez craindre, c'est moi qui suis au contrôle de tout ce qui se passe dans vos vies. Eux, ils sont comme un souffle, aujourd'hui ils sont, demain ils ne seront plus, ils passent comme l'herbe », nous dit le psaume. Alors, c'est ici la même chose. Quand Pierre dit « Sanctifiez Christ comme Seigneur dans vos cœurs », ce n'est pas de penser plus souvent à Jésus tout au long de notre journée. Hein? Pierre ne sort pas ça de son chapeau, mais il tient ça du prophète Ésaïe. Et il s'appuie sur l'Ancien Testament pour demander à ces chrétiens-là auxquels il écrit de s'appuyer sur le même Dieu dans de mêmes circonstances d'adversité. Alors, le sens de l'encouragement, de la parole prophétique, est le même ici. Ne laissez pas vos persécuteurs avoir cette emprise-là sur vous. Ne leur donnez pas un pouvoir qu'ils n'ont pas. Mettez Christ au centre. C'est lui l'ultime. C'est lui qui est saint. Dieu est souverain sur tout ce qui se passe. Notre tâche, c'est de le craindre, Dieu seul, d'être fidèle au Seigneur dans toute notre conduite. Alors, pour en venir à notre passage de 1 Pierre 4, alors les chrétiens, maintenant, après avoir eu cette exhortation-là, Pierre continue dans sa lancée, ils ont été fortifiés, ils ont été replacés, si on veut, sous la seigneurie de Christ, ils ont recentré sur sa souffrance au Christ et sur sa victoire, la fin du chapitre 3, verset 21-22, si je ne m'abuse. Alors, Pierre nous conduit directement à la vérité centrale de notre texte aujourd'hui. Il commence en disant « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, fin du chapitre 3, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Alors, notre première section, qui s'intitule « S'armer de la pensée du Christ pour vivre selon la volonté de Dieu », on pourrait dire que certains passages de la Bible, des fois, sont un peu plus doux. Hein? On a ici affaire un peu à un verset choc, un verset qui pourrait peut-être venir nous choquer. Alors, pourquoi je dis ça? Pierre ose dire des choses qui, peut-être, à notre époque, plutôt nous choquent. On n'aime pas trop les impératifs. On n'aime pas ça quand c'est pas trop le fun. On aime les choses fun. On aime les choses un peu funky. Alors, armez-vous. Armez-vous à souffrir. C'est pas super populaire. C'est plus ça que je veux dire. Alors, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Alors, c'est un verbe un peu inhabituel ici, puis je vous épargne tous les verbes grecs aujourd'hui. Je vais seulement dire le verbe. Alors, premièrement parce que j'ai pas une bonne prononciation, et deuxièmement parce que c'est pas super important. Alors, ce que je disais, c'est que ce verbe-là est... est un peu inhabituel dans le contexte moral dans lequel il est utilisé. Alors, oui, je vais le dire. C'est un mot qui décrit l'action d'un soldat qui équipe son corps avant d'entrer au combat, dans un combat armé. Alors, c'est dans ce sens-là que le mot est un peu inhabituel. Il s'attache, le soldat s'attache à sa cuirasse, qui s'attache à son bouclier, s'attache à son casque, qui se prépare mentalement à l'assaut. Pierre emploie ce mot pour nous montrer le sérieux de l'obéissance chrétienne, du combat chrétien. La vie chrétienne, c'est loin d'être une marche paisible dans un beau jardin, mais c'est plutôt un champ de bataille, un combat perpétuel. Alors, Paul, aussi, dans Éphésiens 6, on connaît tous le passage, appelle l'Église à prendre toutes les armes de Dieu. Et là, il déroule minutieusement chacune des pièces de l'armure, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, Paul connaissait très bien la réalité du combat intérieur du chrétien et extérieur que tous les chrétiens doivent affronter. Alors, mais ce qui est aussi frappant dans le passage de Paul, c'est qu'il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Nous le savons bien. Autrement dit, le véritable ennemi n'est pas l'être humain lui-même. Hein, c'est même s'il peut nous maltraiter. Mais le champ de bataille, comme l'apôtre le dit, n'est pas horizontal, mais est vertical. Paul révèle que la véritable profondeur du conflit, des dominations, des autorités, des esprits du mal, sont dans les lieux célestes et non pas contre la chair et le sang. Alors, il y a des forces invisibles, des puissances spirituelles. Alors, on pourrait résumer un peu la pensée de Paul. Ne te trompe pas d'ennemis et ne te trompe pas d'armes non plus que tu vas utiliser. Tu ne peux pas te battre avec des armes du monde physique dans un combat qui est spirituel. Alors, il faut des armes spirituelles parce que l'adversaire est spirituel. Alors, tandis que Pierre dit quelque chose, pas de différent, mais plutôt de complémentaire. Il regarde simplement un autre angle, si on peut dire, de la même réalité. Alors, Pierre ne nie pas la présence d'esprits mauvais. Des esprits dans ce monde, mais ce n'est pas l'angle qu'il désire prendre ici dans son passage. On pourrait penser aussi même à 1 Pierre 3, versets 19 et 22, lorsqu'il il reconnaît bien la dimension spirituelle du combat, mais là ici, il souligne une autre réalité. Alors, il met l'accent sur cette réalité-là, sur la manière dont les forces invisibles s'expriment dans la vie quotidienne. Alors, le combat est bien réel dans les lieux célestes, mais il passe par des agents humains. Alors, les chrétiens sont appelés à une existence d'exil, même dans leur propre patrie parfois. Alors, non pas un exil qui est géographique, hein, on change d'endroit parce qu'on est persécuté, mais un exil spirituel, culturel et moral. Parce qu'ils ne vivent plus selon les règles des puissances de ce monde. Nous avons changé de loyauté en tant que chrétiens. Hein? Il est évident que notre changement de royaume crée immédiatement une collision avec celui que nous entrons en contact, qui est ce monde impie, une friction, une hostilité avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, notre Dieu. Alors, le verbe de s'armer, dans ce contexte-ci, signifie une compréhension profonde que l'on saisit fermement, comme on saisirait une arme dont dépend notre survie. Alors, c'est une vision éclairée que l'on enfile comme une cuirasse. Et soyons honnêtes, tout cela tomberait complètement à plat si l'apôtre nous demandait simplement d'avoir, comme j'ai dit tantôt, des pensées plus souvent sur Jésus. ou de nous motiver ensemble mentalement. Il ne nous envoie pas un exercice mental, mais il nous renvoie à une personne, vers le Christ lui-même. Alors, nous pouvons nous armer de cette pensée-là parce que le Christ nous a précédés. Il a souffert dans la chair avant nous. Il a résisté aux puissances des ténèbres avant nous. Il a affronté la haine, l'humiliation, le rejet. Et surtout, il nous rend capables de marcher dans cette voie. Parce qu'il nous a donné son esprit et que son esprit maintenant a tabernaclé en nous, son esprit habite en nous jusqu'à la fin du monde, dit l'Évangile. Alors, Pierre, comme je disais bien, n'est pas un stoïcien qui prêche l'autodiscipline. Des fois, on peut voir dans notre culture contemporaine. Il ne dit jamais « résiste par toi-même », mais il dit « résiste parce que le Christ vit en toi ». C'est ce qu'on doit comprendre. Parce qu'il t'a libéré du péché, parce qu'il t'a donné une nouvelle nature, parce qu'il t'a fait devenir enfant de Dieu. Et il en a fini avec le péché, la Bible dit, notre passage. Il marque un changement de régime, un changement de souverain, un changement de royaume. Nous avons les yeux fixés sur lui, sur sa manière de vivre, sur sa manière de souffrir, sur sa victoire. Et on a les yeux aussi fixés sur la façon qu'il nous donne de le suivre, de marcher dans ses voies. Alors, c'est pourquoi il nous entraîne aussi dans une vie qui est étrangère, une vie différente, une vie qui semble étrange, presque incompréhensible, on pourrait dire, pour les gens du dehors. Une vie d'exil avec le monde. Nous étions fidèles à ce monde et à ses passions, mais maintenant, nous ne le sommes plus. Nous sommes fidèles au roi des rois, qui a refusé tous les royaumes, la gloire, les honneurs de ce monde, pour une patrie qui est beaucoup plus glorieuse. On peut se poser aussi la question, est-ce que je suis armé à souffrir de toutes sortes de manières pour Christ? Est-ce que je peux dire aussi ma souffrance n'est pas un accident? Ma fidélité au Seigneur a du sens, même si les gens autour de moi ne le comprennent pas et disent le contraire à propos de ma souffrance. Le temps qui me reste sur la terre appartient à Dieu et à faire sa volonté. Si on ne s'arme pas de cette pensée-là comme une armure, nous serons désarmés devant la pression du monde qui va nous faire croire le contraire. Alors, pour entrer dans mon deuxième point, versets 3 et 4, rompre avec l'ancienne vie et supporter l'étonnement ou l'opposition du monde. Alors, le deuxième mouvement du texte, la rupture. Rupture avec le monde. Rupture avec notre ancienne manière de vivre, dans ses habitudes, dans les rituels sociaux, dans ce que l'on appelle souvent la vie normale, qu'on vit ici en Occident. Peut-être que certains parmi nous l'ont déjà vécu ou le vivent encore aujourd'hui. Vous êtes par exemple avec un groupe d'amis ou d'anciens amis, des gens que vous connaissiez depuis des années. Avec eux, vous partagiez mille et une choses, des traditions, des blagues, des soirées, des habitudes. Vous aviez les mêmes lieux de sortie, les mêmes plaisirs, les mêmes excès, les mêmes façons d'occuper vos soirées, vos week-ends. Et puis un jour, l'Évangile vous a saisi. Quelque chose s'est passé en vous. Vous êtes né de nouveau, né d'en haut. Vos priorités ont changé. Vos désirs eux-mêmes ont commencé à se réorienter, comme si quelqu'un avait tourné votre cœur des ténèbres à la lumière. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui a fait dans notre vie. Et les gens commencent à le remarquer, tôt ou tard, ils finissent par remarquer qu'il y a un changement. Même si au début, on ne peut peut-être pas expliquer avec des mots, mais vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui a changé en vous. Vous avez une nouvelle loyauté, une nouvelle appartenance, une nouvelle identité qui est en Christ. Maintenant, les conversations avec vos anciens amis n'ont plus le même goût. Ce qui vous faisait rire est maintenant rendu obscène ou juste vide complètement. Les vieilles habitudes n'ont vraiment plus la même saveur. Vous vous plongez plus dans les mêmes swamps d'excès, de blagues déplacées, de discussions qui n'édifient personne et même qui rabaissent les autres. Alors, vous ne suivez plus le même courant, hein, sans que vous ayez dit un seul mot. Les réactions des autres commencent à arriver. T'es rendu bizarre. On dirait que tu nous juges. T'es plus aussi le fun qu'avant. T'es rendu plate. Jésus, c'est correct, mais là, franchement, t'es rendu extrême un peu quand même, tu penses pas. T'sais? Tout ce genre de phrases-là, on les a entendues. Alors, c'est exactement ce que Pierre nous décrit dans notre passage ici. C'est la réalité que tous les croyants vont vivre un jour. Hein, parce qu'on décide de vivre pour un autre royaume qui n'est pas le royaume d'ici-bas. De répondre à une autre voix, à un autre Seigneur. C'est la réalité de ceux qui sont exilés. De ceux qui ne choisissent plus de marcher selon les attentes de la culture qui les environne, mais qui décident de marcher selon la volonté de Dieu. Même si certains chemins semblent étranges, on le dit avec Pierre et d'un ton convaincu, c'est assez, verset 3. C'est assez d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. Et eux aussi, il en a fini avec le péché, notre texte dit. Jésus en a terminé avec le péché. Mais dans le sens qu'il a rompu, il demeure dans cet état de rupture avec le monde. Bénétro, un commentateur biblique, dit que Pierre veut montrer que ce temps passé était déjà de trop. Hein, nous étions sous le jugement de Dieu, nous marchions dans la mort, étant ennemis de Dieu. Vous avez déjà donné suffisamment de temps à des choses qui ne produisent rien, rien de bon absolument. Alors, ces pratiques sont précisément les lieux sociaux où la culture païenne se rassemblait, se reconnaissait ou se construisait. Il explique aussi dans le commentaire que ces pratiques-là, des contemporains de Pierre, étaient liées, par exemple, à des banquets religieux, des fêtes païennes, des célébrations civiques, souvent dans les temples. Alors, ce n'était pas seulement de l'immoralité personnelle tout seul chez lui, mais c'était la vie sociale qui était affectée au complet. La vie économique, la vie festive, la vie politique, tout le monde y participait. Alors, c'était normal de participer à ces choses-là. C'était attendu des membres d'une société. Alors, refuser d'y participer, c'était refuser la cité, refuser l'honneur, refuser la communauté, refuser la cohésion sociale. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, parfois, la rupture n'est pas aussi simple, mais elle est nécessaire. Parce que ne plus aller là où le monde va, hein, ne plus désirer ce que tout le monde désire, ne plus célébrer ce que tout le monde célèbre, ne plus idolâtrer ce que tout le monde idolâtre, eh bien, le chrétien devient immédiatement un étranger parmi les autres. La traduction qu'on pourrait faire du texte, c'est qu'on pourrait le rendre par « il vous trouve étranger ». Alors, mais c'est ça. Mais c'est assez d'avoir... mais c'est assez d'un jour de ne pas avoir été étranger. Alors voilà, je l'ai dit, je voulais que ça soit punchy, mais on pourrait dire c'est assez d'avoir un jour pas avoir été étranger. Alors voilà, c'est assez d'avoir déjà été familier avec le monde, c'est assez. Nous avions gaspillé notre vie à courir vers la mort. Hein. Désormais, ce temps-là appartient au passé, vraiment au passé. Ils tentent de vouloir refaire surface parfois, mais la parole de Dieu par Pierre nous encourage à garder ce passé-là dans le passé. Si le monde nous tente à y revenir en disant « Allez, juste une fois encore, voyons, t'as pas assez vécu, t'es beaucoup trop jeune pour vivre comme un moine, laissons-les trouver ça étrange qu'on se mêle plus avec eux dans les mêmes débordements. » Laissons-les nous calomnier, dire des mensonges sur nous dans notre dos. Ça fait partie des souffrances du Christ qu'on embrasse. Il a été moqué, ridiculisé, haï sans raison. Jean 1, verset 11. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Si le monde n'a pas reçu le Maître, pourquoi recevrait-il ses serviteurs? Il se moquait de lui, disant « Salut, roi des Juifs! » et en même temps de le frapper, de lui avoir mis une couronne d'épines sur la tête et de se prosterner devant lui en moquerie comme ça, hein, comme on se prosterne devant un roi. Les passants, ça c'est en Matthieu 27, 29, un autre passage, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours! » On dirait que tu ne vas pas commencer cette construction-là bientôt. Hein? C'est un peu ça qu'il disait. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Réalise ce que tu as dit. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Marc 15, 29, 31. Et Jésus de rien répondre. Lui qui était en train d'obéir parfaitement pour leur salut, pour notre salut. Pour eux qui péchaient en disant ces propres paroles-là. Les gens l'ont calomnié en lui disant que Belzébul était en lui, qu'il a perdu le sens, qu'il était fou, hein, que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Toutes sortes de sottises. Jean 8, 48. Alors, rappelons-nous des paroles du Christ. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Le Christ a été calomnié et Pierre nous rappelle que les enfants du prince de ce monde vont nous faire la même chose qu'ils lui ont fait. Rien ne va changer. C'était comme ça au temps des apôtres. C'était aussi comme ça il y a 12-13 ans quand je me suis converti. C'est comme ça aujourd'hui. Puis il y a quelque chose qui me dit que ça sera également comme ça dans le futur. Alors rappelons-nous que si le monde nous trouve étrangers, ben c'est un signe. Le signe que ton cœur est réellement passé dans un autre royaume. Le signe que tu appartiens à un autre roi. Le signe que tu vis déjà au milieu de Babylone. La vie d'exilé hein, qui annonce une nouvelle création. La création qu'on attend avec la résurrection finale. Alors que toi aussi, comme le Christ, tu vis cette vie-là de rupture. Le monde dit « Tu n'es plus comme nous » et nous, on répond « Amen, tu as bien dit. » Gloire à Dieu. Troisième et dernière partie. Tenir ferme, car Dieu jugera et l'Évangile donne la vie, même après la mort. Alors, on va relire les 2 derniers versets de cette péricope-là, parce qu'ils sont peut-être loin encore dans notre esprit. Alors, verset 5, « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Alors, comme il a été dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu nous trouvent étrangers, nous calomnient. Mais Pierre veut nous encourager quand on vit, par exemple, de l'injustice. On voudrait que la vérité sorte au grand jour. Hein? On voudrait tant donner des raisons pourquoi vous nous calomniez, toutes sortes de choses comme ça. Si vous saviez ce que nous savons, que Dieu est bien vivant et la réalité du jugement à venir, vous ne feriez pas ça. On veut essayer de pouvoir le plus possible se justifier. Mais il nous encourage aussi. Il dit « Dieu est le juge. Le verdict final ne dépend pas du monde. » L'Évangile, oui, on peut le dire, on peut annoncer l'Évangile dans le but de sauver, mais pas essayer dans le but de convaincre le monde qui nous entoure. Alors, j'étais où avec ça? Alors, c'est ça. Dieu est le juge. Le verdict final ne dépend pas du monde. L'Évangile donne la vie, même si le monde gagne, ou plutôt semble gagner pour un moment, semble avoir l'avantage, eh bien, la Bible nous dit qu'ils ne l'ont pas réellement. Encore une fois, c'est de garder nos yeux sur la réalité qui est manifestée dans sa parole. Alors, ils rendront compte, ce qui veut dire qu'ils auront à répondre devant une autorité, un juge, un procès, comme au jour où un dossier est ouvert et où l'on doit répondre de ses paroles, de ses accusations, de ses jugements devant un juge. Pierre place donc la calomnie qu'on subit dans un cadre forensique, hein, un cadre juridique. Les diffamateurs ne sont pas hors circuit, dans le sens, ils ne sont pas au-dessus de la justice, ils ne sont pas l'instance finale. Ce qu'ils font est bien réel, mais c'est provisoire. Ça révèle d'un tribunal qui est inférieur, qui n'aura pas le dernier mot. Alors, Pierre poursuit et qualifie le juge comme celui qui est prêt à juger. Alors, cette formule-là, ne vise pas à nous donner un calendrier hein, du jugement final, pas de date précise non plus, mais plutôt à installer une certitude eschatologique. Dieu n'est pas indifférent, Dieu n'attend pas plus d'évidence contre les impies, et ça serait la raison pour laquelle le jugement final n'est pas encore venu. Mais Pierre veut plutôt nous montrer que Dieu est en position, en ce moment, de juger, prêt, déterminé, et que son jugement est inévitable. S'il revient aujourd'hui, eh bien alors le juste jugement tombera sur les impies. Et Pierre ajoute immédiatement après l'universalité du jugement, il dit « Il est prêt à juger les vivants et les morts ». Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est que personne n'échappe au verdict de Dieu, ni par la vie, ni par la mort. La mort ne devient pas un refuge à l'abri du jugement divin. Même si quelqu'un calomnie, détruit, domine, puis meurt et disparaît des radars humains, ben, il ne disparaît pas de celui de notre Dieu. Alors, ne nous laissons pas enfermer sous le tribunal du monde, dans le verdict que le monde met sur nous. Le verdict final appartient à Dieu. Et c'est justement là, au moment où Pierre affirme que Dieu juge aussi les morts, qu'il anticipe une angoisse qui est concrète pour la communauté dans laquelle il écrit et qui répond au verset 6. Il dit « D'accord, Dieu jugera, mais qu'en est-il de ceux des nôtres qui sont déjà morts? » On pourrait poser la question comme ça, comme si les communautés se posaient cette question-là. « Qu'en est-il de ceux qui sont dans la tombe, sous l'opprobre du monde, sous leur calomnie, sous un verdict humain qui les faisait passer pour des perdants? Est-ce que leur mort, des gens qu'on aime, des chrétiens, ne donne pas raison au monde? Et si le jugement final n'est pas encore manifesté, est-ce que l'Évangile a vraiment tenu ses promesses? » Alors, c'est exactement le genre de vertige que peut nous donner la persécution lorsqu'on est dans le feu de l'épreuve. Surtout lorsque certains croyants meurent avant de voir la vindication publique du peuple de Dieu. Pierre enchaîne avec un mot, « car », qui montre qu'il ne change pas de sujet. Il donne la raison qui rend la parole du verset 5 non seulement vraie, mais habitable. Il ne veut pas seulement affirmer « Dieu jugera vos persécuteurs », ce qui est absolument vrai, mais qui est incomplet. Alors, suivez-moi ici. Il veut aussi assurer que notre fidélité ne s'évapore pas si nous mourions avant la manifestation du jugement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, sans le verset 6, le verset 5 pourrait être entendu comme une simple menace tournée vers les calomniateurs. C'en est une d'une certaine manière, mais Pierre fait davantage que ça. Il ancre l'Église dans une espérance qui résiste même à l'épreuve ultime. Alors, laissez-moi une petite seconde. Alors, au verset 6, quand il dit « Car l'Évangile a aussi été annoncé aux morts », de qui parle-t-il exactement et pourquoi dit-il cela? Juste après avoir affirmé que Dieu est prêt à juger les vivants et les morts. Les commentateurs ont généralement présenté trois lectures de ce passage-là. Je ne rentrerai pas là-dedans. Une position qui est tenue par les pères de l'Église, une autre qui est un peu plus spiritualisante, mais celle qui, on croit, est la meilleure et à laquelle la plupart des spécialistes s'entendent aujourd'hui, c'est que cette position-là, c'est que les morts du verset 6 sont des croyants qui ont entendu l'Évangile de leur vivant, puis qui sont morts au moment où Pierre écrit sa lettre. Alors, cette lecture, à mon avis, s'imbrique parfaitement avec la lancée pastorale de Pierre de vouloir réconforter des chrétiens qui vivent dans plein de difficultés et d'incompréhensions. Alors, un peu comme je dis un peu plus haut. Et ceux qui sont morts avant la manifestation du jugement, qu'est-ce qui se passe? Et ceux qui sont partis sous le mépris du monde, sous l'opprobre, sous les calomnies, est-ce que ça ne donne pas raison à la foule? Est-ce que leur fidélité n'a pas été du temps perdu? Puis elles répondent non. Même si selon les hommes, ils, les chrétiens, ont été évangélisés, qui ont cru, qui ont été jugés, condamnés quant à la chair, hein, le verdict qui est tombé sur eux de la part des hommes, pendant qu'ils étaient encore vivants, eh bien, selon Dieu, ils vivent quant à l'Esprit. Ils sont dans la présence de Dieu qui est bon et bienfaisant envers ses enfants. Alors, le verdict final, le verdict du monde est provisoire, mais le verdict de Dieu est définitif et éternel. Il nous console par ce genre de paroles. Tu peux remettre le jugement à Dieu. Refuse la vengeance, parce que Dieu n'est pas seulement le véritable juge, il est aussi celui qui fait vivre. Et même la mort physique n'a pas, ne contrefait pas l'Évangile, l'effet de l'Évangile dans un cœur humain. Alors, si on s'attarde au chapitre 3, dans le chapitre 3, c'est exactement la même logique qu'ici. Le Christ a été mis à mort quant à la chair, vivifié quant à l'esprit. De même, ses enfants peuvent être condamnés selon les barèmes humains, hein, jugés d'après des critiques humaines, mais ils vivent selon Dieu. Ils seront rendus vivants au dernier jour parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors, la suite logique de l'encouragement pastoral 1 et 2, la similarité du jugement du monde sur Christ et ses enfants, ainsi que la victoire du Christ sur ce monde et inévitablement, à cause de sa victoire, notre victoire finale avec lui sur les impies, sont, à mon avis, les meilleures manières de lire ce passage-là avec l'ensemble de la lettre. Alors, j'espère que j'ai été clair à ce niveau-là. Alors, en conclusion, si le monde nous trouve étrange, ne soyons pas surpris, hein, simple comme ça. C'est le signe que nous avons changé de royaume. Vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Vous avez changé de loyauté, anciennement loyal au monde et au prince de ce monde pour devenir maintenant des enfants de Dieu. Alors, c'est assez d'avoir vécu selon la volonté des païens dans le temps passé. Assez de temps perdu à avoir couru vers la mort. Ce passé n'est plus une option pour nous. Et quand le monde tente de nous faire entrer à nouveau, juste une fois, même juste une fois, on dit non. Il appartient au passé et il en reste là. Quand le monde nous calomnie, quand notre réputation en mange un coup, comme on dit ici au Québec, hein, nos relations aussi, notre confort, parfois même notre emploi, eh bien, on pourrait dire même bien d'autres choses, mais on tient ferme. Comme les chrétiens qui ont, de l'époque, qui ont été marginalisés parce qu'ils ne suivaient plus les règles de l'époque, bien, de la même manière, on pourrait subir ce genre de persécution-là. On rend gloire à Dieu qu'on n'en subit pas de cette même manière-là aujourd'hui au Canada. Alors, même si nous perdons aux yeux des hommes, semblons perdre plutôt, nous ne perdons pas ce qui compte vraiment, parce que le verdict final n'appartient pas au monde, mais il appartient à Dieu. Alors, ne restons pas prisonniers des opinions du monde, hein, du tribunal qui essaye de nous faire. On a été jugés quant à la chair, mais le Christ nous rendra vivants quant à l'esprit. Alors, même si l'épreuve va jusqu'à la mort, ben, l'Évangile n'échoue pas. Ceux que les hommes ont condamnés quant à la chair, c'est ça, vivent déjà selon Dieu quant à l'esprit. Ils ne sont pas abandonnés dans la mort, on le sait bien. On est dans la présence de notre Seigneur pour toujours. Alors, armons-nous donc de la pensée du Christ. Oui, nous souffrerons, peut-être même jusqu'à la mort, mais nous vivons le temps qui nous reste pour la volonté de Dieu et tenons ferme. Le monde peut rendre un verdict provisoire, mais c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Alors, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions que cette parole fasse un effet dans nos cœurs, tu le dis, au sein de cette même parole, que aucune parole ne retourne à toi sans avoir fait son effet dans les cœurs qui l'entendent. Alors, notre Dieu, notre Père, nous te prions, Seigneur, de toucher les cœurs qui entendront ce message, non point parce que c'est la parole de Matthieu, mais parce que c'est la parole révélée, prêchée du seul vrai Dieu. Du Dieu qui se révèle encore 2000 ans plus tard au sein de cette parole-là, qui convainc de péché, de justice et de jugement par son Saint-Esprit, qui habite les croyants et qui les fait surmonter toutes sortes d'épreuves que le monde peut tenter de leur mettre sur leur chemin. Seigneur notre Dieu, nous voulons être fidèles. Nous savons que nous pouvons être fidèles parce que tu habites en nous et tu nous rends capables de t'obéir. Oui, Seigneur, tu nous as montré l'exemple. Seigneur, tu as été un grand exemple, mais encore plus, Seigneur, tu es mort comme sacrifice pour nos péchés. Et maintenant, tu habites en nous. Merci, Seigneur, pour cet esprit qui ne nous abandonne pas, pour cet esprit qui ira jusqu'au bout avec nous. Nous ne sommes pas orphelins dans ce monde. Nous ne sommes pas, nous pouvons être misérables aux yeux du monde. Mais Seigneur, c'est toi qui as le verdict final. C'est toi qui as le dernier mot. Et tu nous rendras la vie avec tous les tiens. Dans la gloire éternelle, le jour où nous rendrons notre dernier souffle ici sur terre. Merci pour cette espérance qui est vivante, pour cette espérance glorieuse qui nous vient de toi. Seigneur, nous irons pour l'éternité t'adorer, te louer, te glorifier, te servir dans les cieux pour la plus grande gloire de ton nom. Et c'est ce que nous voulons faire pour le temps qui nous reste à vivre sur la terre, parce que c'est assez d'avoir pour un temps vécu dans ces péchés que nous avons honte aujourd'hui. Alors, Seigneur, merci de nous en avoir délivrés. Merci de les laisser dans le passé. Seigneur, nous voulons faire tous nos efforts dans cette sanctification-là par l'aide de ton esprit. Aide-nous, nous t'en supplions. Au nom du Christ Jésus, j'ai prié. Amen.